salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous pénétrons en Chine par la petite porte, pas celle de la croissance et des villes illuminées, mais plutôt une Chine de la déshérence, aux confins des gratte-ciels, plus tout à fait la campagne bucolique, pas vraiment la ville pour tous. Bonjour Jordan Pouille.
Bonjour.
Vous êtes journaliste français, correspondant pour plusieurs journaux francophones. Vous publiez Le Tigre et le Moucheron sur les traces de Chinois indociles aux éditions Les Arènes. Vos rencontres se situent, on va dire, en marge de l'actualité que se doit de couvrir un correspondant, hein, c'est ça.
Oui.
Vous avez tenté d'entrer dans des existences anonymes, la plupart du temps assez mécontentes de leur destin.
Oui, et c'est surtout une forme d'immersion où j'habitais chez l'habitant et je racontais la vie de paysan.
C'est ça. Vous avez crapahuté en Chine, on peut le dire comme ça. Pierre Yang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes traducteur, écrivain chinois installé en France depuis 1988. Vous avez quitté la Chine un petit peu avant les événements de Tiananmen. Vous avez grandi à la campagne jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à l'âge de 15 ans et puis après je suis allé à l'université.
Oui, alors quelle campagne ?
C'est une campagne qui est tout à fait typique dans le sud de la Chine. Pour ce qui est de Pékin, puisque en fait ma province qui s'appelle Hubei se trouve juste au centre du pays. La ville, la capitale de la province, c'est Wuhan, une grosse ville où sont installées par exemple plusieurs industries françaises comme Peugeot, Citroën.
Et vous avez publié plusieurs ouvrages en France, notamment votre premier roman, Démon Nocturne, et dans lequel vous revenez d'ailleurs un peu sur les lieux de votre enfance. Hein,
tout à fait.
Une sorte de voyage intérieur. Et quant à vous, les voisins, les voisines, où que vous soyez, bien évidemment, vous pouvez questionner nos invités, dialoguer sur cette Chine des invisibles, moucherons qui s'agitent sous le museau du tigre. 33 1 84 22 71 71. Et bien évidemment, tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je me ferai votre porte-parole, mais vous pouvez bien sûr nous téléphoner en direct. Je vous lis quelques commentaires. Léonide de Douala nous dit « Moi, je dis souvent que la Chine n'est pas encore au bout de ses peines. Une croissance non inclusive a toujours été source d'instabilité. Les dirigeants chinois, s'ils en sont conscients, devraient faire attention à cette réalité qui, au jour le jour, ne fait que s'affirmer avec l'accès des jeunes à la connaissance. » Oui, bien évidemment, on en parlera hein, de l'Internet. Inès à Cotonou nous dit qu'elle est au Bénin. Des produits manufacturés très peu chers. Ça, nos auditeurs en Afrique, évidemment, s'en rendent bien compte. De la main d'œuvre presque gratuite. Il y a toujours un prix à payer. Ces gens constituent le revers de la médaille d'une croissance fulgurante. Et puis, avec un tel développement, cela nécessite beaucoup d'énergie dans un tel contexte énergétique. Jusqu'à quand tiendront-ils ? Voilà, nous, évidemment, nous nous ferons l'écho de ces questions et vous pouvez nous appeler en direct au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe. Au bout du monde, nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Une bien large famille tout de même. Jordan Pouy, qui sont exactement ces moucherons en Chine ?
Alors ces moucherons, déjà le terme moucheron est assez utilisé par le président Xi Jinping, car dans sa lutte contre la corruption, il s'est dit on va s'attaquer à la corruption aussi bien chez les tigres que chez les moucherons du parti, c'est-à-dire aussi bien les petits fonctionnaires que les grands.
Donc on aime bien la métaphore. Hein.
Voilà, donc qui existe. Et moi j'ai voulu m'intéresser, j'ai par analogie avec la fable de La Fontaine, le lion et le moucheron. Je voulais surtout parler de la Chine d'en bas, mais pas côté officiel, côté paysan, côté Laobaxing, les gens ordinaires, aux prises avec les autorités locales. Donc ça peut très bien être, par exemple, je raconte l'histoire d'un prêtre de l'église catholique souterraine, en cavale, qui essaie d'échapper aux autorités locales, ou bien un phénomène qui est beaucoup plus ordinaire, c'est-à-dire les gens simplement expropriés en Chine à cause de l'urbanisation.
Finalement, leur point commun, quel est-il entre tous ces moucherons ?
Ce que je disais, donc moi je pense que c'est l'indocilité, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont envie de renverser le régime ou qui ont une dent contre le parti unique, mais qui vont essayer de se frayer un chemin dans cet environnement autoritaire et trouver leur voie.
Leur voie et un certain système D quand même, hein, une forme de débrouille pour contourner la règle.
Voilà, donc c'est de la débrouille et aussi un certain cynisme.
Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui par, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup été dans ce qu'on appellerait les campagnes chinoises, mais qu'est-ce que ça veut dire les campagnes chinoises aujourd'hui, pour vous et puis pour Pierre Yang, Jordan Pouille.
Les campagnes, c'est un peu spécial parce que là, effectivement, à l'inverse de l'Inde, ce qu'on voit en Chine, c'est de l'exode rural, mais vraiment massif. Et donc, forcément, la population active, les jeunes vont se ruer vers les villes, ce qui fait que la campagne aujourd'hui en Chine, c'est beaucoup de population âgée qui a du mal à entretenir ses terres. Et il faut savoir que les villes essayent de se débarrasser de la pollution pour le bien-être des urbains. Donc ces usines polluantes, les centrales à charbon qui avant entouraient les villes, s'éloignent et vont s'installer dans les campagnes.
Donc là, c'est la ville qui s'installe dans la campagne. C'est voilà. Pas seulement l'exode rural avec les gens qui quittent la campagne.
Oui, donc ce qui veut dire que ces villages diminuent fortement population, mais doivent affronter un nouveau défi, c'est-à-dire l'arrivée des industries. Et donc il y a des problèmes de pollution, on parle même dans certains cas de villages du cancer, parce que la pollution est extrêmement forte, mais la population est âgée et démunie, elle n'a pas le pouvoir, la capacité de repousser cette menace.
Donc visuellement, on a des champs au pied des usines, au pied des fumées des usines, avec des enfants qui s'intoxiquent, et ces fameuses maisons clous, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui. Alors les enfants qui s'intoxiquent, c'est vrai que quand les parents travaillent à la ville, ils laissent les enfants à la campagne. Donc ce qu'on voit, c'est que évidemment les grands-parents s'occupent des enfants. Et ces enfants sont exposés à une pollution des métaux lourds. Les maisons clous, ce sont les gens qui résistent à des démolitions. Et c'est assez photogénique, c'est-à-dire qu'on trouve souvent des maisons, c'est plutôt dans les villes, ou aux abords des villes, où des toutes petites maisons sont finalement sur des monceaux de terre, parce que les pelleteuses ont creusé tout autour. On voit vraiment une résistance.
C'est pour ça qu'on dit maison clou, voilà. C'est ça. Elle se retrouve en haut d'un promontoire.
Elle s'accroche comme une moule à son rocher.
Pierre Yang, vous avez grandi à la campagne. Comment s'est modifiée la campagne que vous avez connue par rapport à aujourd'hui ?
Ah oui, j'ai assisté à une grande évolution dans ce sens-là. La campagne représentait dans les années 80, début 80, 80-90% de la population. Aujourd'hui, on parle officiellement de combien ? De 600 millions de paysans.
635, oui. Donc voilà, c'est moins de 50%.
Millions. Donc ça veut dire que la campagne
des peuples
et les paysans, les jeunes notamment, ont quitté leur terre natale pour aller travailler en qualité de ce qu'on appelle travailleurs migrants dans les grandes villes, sur les chantiers à Pékin, à Shanghai, etc. Il y a donc plus de 30 ans, quand j'étais dans une petite ville dans le centre du pays, il y avait, quand j'ai quitté cette ville, il y avait 15 000 habitants, il y avait une rue principale. Aujourd'hui, il y en a 300 000 habitants et je sais pas combien de lignes de bus. Le paysage a changé puisque avant je comptais le nombre de voitures, je savais compter parce que ça dépassait pas deux chiffres en tout. Et je comptais aussi le nombre d'étages, ça dépassait pas trois et demi. L'immeuble le plus élevé quand j'étais là-bas avait 3,5 étages. Aujourd'hui, on est en train de construire des immeubles à 20-25 étages. Donc, vous voyez le changement.
Mais vous conservez finalement une image idéalisée de la campagne chinoise, celle que vous avez connue dans le centre de la Chine.
J'essaie d'idéaliser cette image, puisqu'elle n'existait plus. Aujourd'hui, c'est la pollution, les rivières sont polluées. Dans la ville, c'est les chantiers éternels. J'ai jamais vu, depuis que j'ai quitté ma ville, jamais vu une ville sans chantier, quoi. J'y retourne tous les ans, mais tous les ans, je marche sur le chantier, je marche dans la poussière, je marche dans les bruits, etc. C'est un chantier permanent partout.
Ouais. Jordan Pouille, on sent pas tellement non plus dans votre livre, je dirais, des Chinois nostalgiques de cette campagne bucolique que vous racontez, Pierre Yang. C'est-à-dire que on sent plutôt une âpreté de la vie, mais qui a toujours été, finalement, Jordan Pouille.
Ça, c'est lié à l'histoire. Je pense que pendant la Révolution culturelle, c'était très dur. La vie était très dure également. Donc, c'est une autre forme de difficulté, sachant que la carotte, qui permet aux gens de continuer d'accepter cette vie, c'est peut-être le niveau de vie qui devrait s'améliorer. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie est difficile, mais il y a quand même des opportunités de faire du business. Donc, en acceptant que son village soit abîmé, on peut quand même en acceptant ça, en se mettant en cheville avec les industriels qui arrivent, en se mettant en cheville avec le chef du village un peu corrompu, on peut quand même prospérer. Donc il y a une forme de pragmatisme aujourd'hui qui prime.
Si je dois faire une comparaison entre la vie d'il y a 30 ans et la vie d'aujourd'hui, je me permets de dire que la vie à la campagne, c'est quand même améliorée. D'abord, dans les années 60-70, tous les paysans étaient obligés de travailler tous les jours au même village. On n'avait pas le droit d'aller travailler ailleurs. Aujourd'hui, on est libre de rester ou de partir. Pour moi, c'est un progrès. Ceci dit, aujourd'hui, à la campagne, il n'y a rien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Il n'y a que les vieux et les enfants qui restent. Même s'ils sont, ils sont pas obligés de travailler. Souvent, ils travaillent pas, puisque leurs enfants leur envoient, dans la mesure du possible,
quand ils le font,
un peu d'argent. Ils passent leur temps à jouer au mahjong, s'étendre au soleil quand il fait froid, et quand il y a du soleil.
Et à se plaindre de leur enfant unique qui parfois n'envoie pas d'argent, hein, parce que les relations familiales
bien
sont
sûr,
pas si idylliques que cela.
Bien sûr.
Vous restez avec nous, Jordan Pouille, vous signalez quoi? 900 000 villages disparus, laissés à l'abandon entre 2000 et 2010, c'est énorme, hein, comme modification du paysage, des relations aussi entre les voisins et les voisines, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, vous qui nous écoutez, vous pouvez poser vos questions à nos invités sur cette Chine en pleine transformation. On parle donc de cette Chine plutôt à la marge aujourd'hui, hein, entre ville et campagne. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Hey girl,
我假装做没看见，可是你的外表太过迷人，就是不对我放电，好像我所有一举一动都会被你发现，想对你说又不敢说的话，我只好碎碎念，可不可以把你号码给我？等一下，可不可以陪我？我绝对不是一波寂寞，我一向都光明磊落，别再跟我打太极，老这样可不行，该遵守下剧情，不然导演他会喊停。 这场戏我能挺得过，我相信男主角和女主角也能假戏真做。如果我主动你没反应，就不是我的错啊！别怪我没努力过。嘿嘿，你总是朝我这边看，可是拜托，你跟我说句话好吗？
C'est le chinois Dewen, est-ce que je prononce bien Jordan Pouille.
Oui, c'est de la pop qui marche très bien là-bas.
Ouais. Alors, on parle de cette Chine à la marge. On le disait, 900 000 villages disparus ou laissés à l'abandon, rien qu'en 10 ans, c'est-à-dire les 10 premières années du 21e siècle. Gros changement. Vous nous disiez, Jordan Pouille, qu'il y a ces villages du cancer, hein, avec de l'eau souillée, où on revendique d'ailleurs à certains endroits, des endroits où on peut prendre des douches à l'eau propre. C'est tout dire, où il faut parfois sonder le sol jusqu'à combien de centaines de mètres sous terre pour avoir de l'eau non souillée par les usines.
Alors bon, il faut pas non plus
généraliser,
et toutes les campagnes ne sont pas souillées de métaux lourds. C'est vrai que officiellement un sixième des terres arables, donc des terres cultivables en Chine, sont toxiques. Et ça, c'est un rapport du ministère de la Protection de l'Environnement qui dépend du gouvernement central et qui a parfois du mal à accéder aux provinces pour faire ses études parce que ils ne défendent pas les intérêts des autorités locales.
Et comment se mobilisent dans ce cas-là les moucherons, puisque et ces indociles auxquels vous consacrez votre livre, Jordan Pouille, pour protester contre, à la fois contre cette pollution, contre les terres qui sont confisquées également?
je pense que la protestation reste pour l'instant sporadique, reste marginale. Parce que quand on est confronté à ce type de problème, on se rend compte que la marge de manœuvre est faible. Et je pense, donc, on parlait par exemple d'un village où j'ai passé une semaine avec la chef du village, donc la chef du parti local.
Dans quelle région ?
C'était à la frontière entre le Hebei et le Shandong, à 2 heures de train de Pékin. Et cette dame était assez dynamique. Et c'était d'ailleurs la première femme choisie depuis l'avènement du communisme pour diriger ce parti. Elle était assez dynamique, mais confrontée à ce problème de pollution. Et il pouvait pas faire grand chose. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'on va essayer de faire travailler les personnes âgées, au moins symboliquement, pour que les terres soient encore cultivées, afin de ne pas donner de prétexte aux autorités locales de l'échelon supérieur de confisquer ces terres, leur dire bah voilà, elles sont abandonnées, on va les donner aux industriels locaux. Donc elle s'est dit allez, on va continuer à cultiver même pour l'image. Et ça, c'est des exemples très particuliers. Et je pense que chacun se débrouille, essaye de trouver une solution pour pouvoir ralentir cette urbanisation qui pour la campagne est néfaste.
Et les pétitionnaires alors qui se rendent à la ville, qui sont-ils? Parce que il y a aujourd'hui des organes qui permettent de monter à la ville pour pétitionner.
Alors c'est aujourd'hui, en fait, c'est depuis très longtemps, hein, même avant la Chine communiste, c'est toujours eu, tu peux confirmer Pierre. Hein.
C'est tout à fait dans la tradition chinoise, les pétitions, les doléances, en fait, nous, en Occident, on connaît l'existence de ce qu'on appelle du tribun populaire, c'est-à-dire que, au lieu d'aller en justice, on essaie de régler tous les problèmes, tous les conflits, toutes les contradictions en interne, pour ne pas aggraver la situation.
Et c'est donc c'est une forme de couvercle de la cocotte minute qui de temps en temps s'entrouvre en fait.
Exactement.
Pour laisser passer le...
Et il se trouve que aujourd'hui il y a trop de pétitionnaires, on essaie au contraire, avant on encourageait ce genre d'initiative, aujourd'hui on essaie de tuer toute initiative dans ce sens, dans l'œuf.
Jordan Pouille, de quelle manière ?
Alors il y a plein de manières. Souvent l'idée c'est donc les pétitionnaires, on peut pétitionner au niveau local, c'est-à-dire donc aller au bureau des pétitions de la préfecture ou alors de la capitale de province, et si ça marche pas on va à Pékin.
C'est un peu comme le tribunal, première instance, en cour d'appel, etc. Alors, il y a plusieurs niveaux administratifs.
Néanmoins donc certains pétitionnaires finissent au poste de police.
Ou même en hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a des il y a toujours des manières de...
Il faut peut-être préciser que la loi chinoise permet l'internement psychiatrique de façon plus souple.
Très souple. Si la police considère qu'une personne peut constituer un trouble à l'ordre public, elle est en droit de l'interner. Ce qui veut dire qu'un officiel en cheville avec un policier peut convaincre ce policier de l'interner. Et je raconte notamment la vie d'un pétitionnaire qui était donc lui en bisbille avec son patron pour des salaires impayés, et il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Il m'explique comment ça s'est passé, et en fait cet enfermement injuste l'a rendu fou, et maintenant il vient régulièrement à Pékin et il fait le pied de grue devant les ambassades en espérant un jour parler à la tribune des Nations Unies, et c'est devenu extrême. Donc face à cette situation insoluble d'obtenir justice, sa femme l'a quitté, ses enfants l'ont quitté. Donc les pétitionnaires sont vraiment un problème. Gérer les pétitionnaires sont devenus vraiment un problème en Chine, je pense, pour le gouvernement central aussi.
Ah oui, notamment à l'occasion de la tenue du congrès du parti tous les 5 ans, à la tenue du congrès du peuple à l'Assemblée nationale. Donc les pétitionnaires profitent souvent de cette occasion pour venir jusqu'à Pékin, ce qui fait que pour les autorités centrales, ça a été toujours un moment de tension.
Alors les pétitionnaires, c'est ceux qui choisissent d'agir, mais il y a aussi les désespoirs qui se traduisent en suicide, ça on va en parler. Vous restez avec nous tous les deux, Jordan Pouillet et Pierre Yang, suite de cette Chine en partie rurale ou urbaine à la marge. On évoquera tout à l'heure aussi le sort des enfants de l'ombre sans existence légale. Retour dans 3 minutes après le flash. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de la Chine aujourd'hui, mais alors cette Chine vraiment à la marge, hein, en dialogue avec deux hommes, deux générations. Jordan Pouille, correspondant français à Pékin pendant plusieurs années, vous publiez Le Tigre et le Moucheron sur les traces de Chinois indociles. Et Pierre Yang, vous êtes traducteur, écrivain chinois, et vous publiez d'ailleurs votre premier roman, Démon Nocturne, dans lequel vous revenez un peu sur cette campagne qui a peuplé votre enfance. Vous nous l'avez raconté. Cette campagne qui n'avait strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui, des villes de campagne avec une artère principale, des maisons de trois étages alors que les buildings en ont 30 aujourd'hui. Et néanmoins, vous avez pris soin tous les deux de ne pas idéaliser ces campagnes chinoises qui vivaient une autre forme d'oppression que les pollutions chimiques d'aujourd'hui. Alors, vous nous parliez des pétitionnaires qui ont toujours existé finalement, y compris dans la Chine de Mao, où il y avait une soupape pour venir protester de manière très officielle et peut-être de façon aussi assez inefficace, hein. Mais aujourd'hui, il y a aussi, lorsque les pétitionnaires ne peuvent pas être entendus, ces vagues de suicides en Chine, alors probablement aussi à prendre avec des pincettes, hein, Jordan Pouille. On a beaucoup parlé dans la presse occidentale de la vague de suicides de travailleurs de Foxconn, qui est le géant industriel qui fabrique pour Apple, c'était en 2010. Hein. Vous, quelle est votre position là-dessus? Parce que vous avez rencontré de nombreux ouvriers du groupe Foxconn.
Alors moi j'ai eu la chance d'aller à 5 reprises aux abords d'usine Foxconn. Foxconn, il faut savoir que c'est le premier employeur privé de Chine. C'est une firme taïwanaise qui fabrique dans ses usines chinoises, pardon, les produits Apple principalement, mais aussi Nokia, Nobox, Internet, tout ça. Et donc il y a une ville qui s'appelle Longhua, pardon, qui est en banlieue de Shenzhen au sud et qui rassemble plus de 300 000 ouvriers. C'est le principal site de production des produits Apple. Donc il faut voir, c'est quand même impressionnant d'être là-bas. C'est-à-dire que il y a deux shifts, il y a deux roulements toutes les 12 heures. Donc le matin à 6h45, t'as la moitié.
C'est pas du tout les 3-8 comme on dit en France.
Ouais. Il y a la moitié de ces ouvriers qui descendent vers l'atelier. Donc les dortoirs sont situés en haut, enfin au sommet d'une pente. On les voit débouler. Et après surgit l'autre vague qui rejoint le dortoir. Et après le silence total, donc pendant la journée c'est vide. Et c'est effectivement des jeunes travailleurs, des gens qui ont souvent 17, 18, 19, 20 ans, et c'est leur premier job. Ils ont quitté le lycée, et il y a beaucoup de désillusions. Et je pense que les suicides ne viennent pas de l'esclavagisme, des formules un peu un peu grossières qu'on trouve.
Vous voulez dire que Foxconn n'est pas un groupe plus maltraitant qu'un autre?
Mais Foxconn paye bien, enfin étonnamment, paye bien. Donc, c'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers qui, grâce à leurs heures supplémentaires, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils sont là, donc ils acceptent de travailler plus, gagnent 5000 yuan. Donc, c'est parfois un peu mieux qu'un salaire de jeunes diplômés d'université qui démarrent dans la vie active. Sauf que les rythmes sont vraiment éreintants et tout est fait pour conserver l'anonymat. Pour vivre dans l'anonymat. Par exemple, les ouvriers sont évidemment dans des dortoirs, filles garçons, ça c'est pareil pour toute la Chine, mais on essaye aussi de les séparer au niveau provincial, c'est-à-dire que les amis qui viennent du même village ne vont pas pouvoir dormir ensemble en fait.
Pourquoi cela ?
Pour éviter les rassemblements. Et pour éviter effectivement que ça génère donc des rassemblements et peut-être des mécontentements et peut-être des mouvements sociaux.
Et donc ils sont plongés dans une solitude totale.
Voilà.
Très
alors
jeune.
Bon, il y a quand même des moments de pause, c'est-à-dire une fois qu'on sort de l'atelier, la navette vous dépose dans cet immense quartier résidentiel. Il y a des cybercafés, il y a des boutiques et voilà. Donc ils ont un laps de temps, on va dire 45 minutes pour souffler un peu et pour se retrouver. Et après ils séparent. Donc c'est une jeunesse à cet âge-là, c'est le temps des premiers amours et ça fait toujours un peu mal au cœur de les voir pendant 45 minutes filles garçons ensemble et puis bim, devoir se séparer, reprendre la navette pour aller dans son dortoir garçon ou son dortoir fille. Ça, je pense que ça fait un choc pour ces jeunes qui s'attendaient pas à ça, qui avaient une vie peut-être difficile mais en tout cas paisible à la campagne avant et qui se retrouvent avec un rythme totalement...
D'où les vagues de suicide?
Je pense, oui.
Vous racontez aussi, il y a un très très beau chapitre dans votre livre sur un pêcheur de cadavres. Alors, faut que vous nous racontiez quand même quel est ce drôle de métier, un gars qui repêche des cadavres en amont du barrage, et puis quelle est l'étendue de ce type de métier dans la Chine d'aujourd'hui. Jordan Pouille.
Oui, alors c'est effectivement, ça se passe près d'un barrage, dans le près de Lanzhou, la capitale du Gansu, qui est une province à côté du Xinjiang. C'est une province assez reculée. Et ce monsieur a eu deux enfants. Et donc, il y a la politique de l'enfant unique. Et quand il a eu son deuxième enfant, il lui a fallu payer une très forte amende qu'il ne pouvait pas payer. Donc, les autorités locales lui ont dit, mais on va prendre vos terres, on va se payer comme ça, quoi. Donc
il a plus de boulot.
Voilà. Donc il s'est dit, bon bah moi, je vais pas faire comme tous les autres paysans, je vais plus pouvoir cultiver mes vergers, je vais ramasser les ordures qui échouent contre les barges devant près d'un barrage. Et il a commencé à collecter les bouteilles de plastique et les revendre au poids dans la ville la plus proche. Et il est tombé sur des cadavres. C'est-à-dire qu'un jour, il est tombé sur le corps d'une jeune fille. Et puis d'autres. Et la première fois, il est allé voir la police. Et la police a pas voulu s'en occuper.
Mais ces cadavres, Jordan Pouille, d'où sortent-ils ?
Ils sortent des usines. En fait, c'est ce barrage. Il faut savoir que ce barrage est très récent, là où je suis allé, et il approvisionne en énergie électrique les usines pétrochimiques en amont, dans la ville. Et c'est une province reculée, c'est-à-dire que le droit est pas toujours appliqué. Il y a quand même pas mal de conflits, parfois de salaires entre patrons.
Donc, conflits, des gens qui se font balancer dans la
des gens qui voilà, des conflits de règlement de compte, des gens qui se font bazarder dans la rivière.
Des suicides
aussi, de querelles amoureuses.
Mais ça révèle quelle étendue du problème dans la Chine d'aujourd'hui, Pierre Yang. C'est juste une anecdote,
Non, c'est plus qu'une anecdote. Ça reste quand même marginal. J'ai lu quelques reportages sur ce phénomène sur le fleuve jaune. Dans le centre du pays, il flottait, je pense qu'il continue à flotter, de nombreux cadavres qui sont pas toujours repêchés par la police, parce que la police, vous savez, elle est pas toujours motivée, elle est souvent débordée, d'où l'existence de ce métier. Il y a des vieux pêcheurs qui lancent là-dedans pour repêcher des cadavres qu'ils essaient de revendre à leur famille.
Voilà, donc c'est un service funéraire. En fait, cette personne que j'ai rencontrée a une utilité sociale assez importante, puisque il va un peu enquêter pour retrouver les parents de ces ouvriers migrants, qui souvent sont très loin. Et comme le rapatriement de défunts coûte cher en Chine, il organise des célébrations funèbres sur place. Bon, c'est assez rudimentaire, c'est quelques pierres, une prière.
Pêcheur de moucherons.
Voilà. Bon, et passer du temps avec lui, c'est se rendre compte aussi de...
C'est extrêmement poignant, vous l'avez suivi en train de pêcher les cadavres.
Voilà, c'est assez... En fait, on était sur sa barque, hein, tout simplement, et il commençait le matin, au lever du soleil. Il avait ses coins, c'est-à-dire qu'en gros, la rivière, les méandres de la rivière poussent certains corps échoués à certains endroits. Et bon, lui, c'est un business, mais en même temps, il sait très bien que... qui rend service, quoi. Et donc même s'il est comme tu l'as dit, on en parle en Chine dans la presse aussi chinoise.
Il y a ce mélange, c'est ça, de cynisme et en même temps d'humanité.
Voilà, donc ça rebute beaucoup de Chinois, mais force est de reconnaître que ces gens sont importants. Ces moucherons ont une importance capitale.
Alors, il y a d'autres moucherons sur lesquels vous avez pas mal travaillé, ce sont les fameux enfants surnuméraires, hein, c'est-à-dire le résultat de la politique de l'enfant unique. Est-ce qu'on peut redire en quelques mots ce que dit la politique de l'enfant unique, et donc dans quelles circonstances des parents se retrouvent avec un enfant qui n'a pas de trace légale, qui n'est pas déclaré, donc qui n'a pas accès à l'école publique, qui n'a pas accès à la santé publique, etc.
Voilà, donc quand Deng Xiaoping est arrivé, avec ses grandes réformes, l'ouverture économique, il a voulu aussi freiner l'expansion démographique, et il s'est dit, on va imposer la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire, en gros, ben, simplement limiter le nombre d'enfants par couple, et à un, et sauf à la campagne. C'est-à-dire qu'à la campagne, on pouvait avoir... je pense deux enfants.
À la campagne, sauf dans les régions peuplées essentiellement par les minorités nationales, au Tibet, etc., etc. Mais en la campagne, en général, c'était la même politique de l'enfant unique qui a été appliquée.
Alors, la politique de l'enfant unique, si on a une fille, on a le droit d'avoir un deuxième enfant.
À la campagne, oui. on peut avoir un deuxième
enfant.
Ce qui a permis, mais si le deuxième enfant est une fille, c'est fini.
Ouais. Donc, d'où de nombreux infanticides. Et puis, aujourd'hui, des enfants qui ne sont pas... D'ailleurs, il y a quelqu'un dans votre livre qui dit « Oh, mais autrefois, c'était beaucoup plus simple, on les empoisonnait. » Et des enfants qui restent, qui naissent, qui sont aimés par leurs parents, mais qui n'existent pas légalement pour l'État.
Voilà, parce que bon, si le deuxième enfant naît, il est en infraction. Il y a une manière, il y a une possibilité pour cet enfant d'être légal, c'est-à-dire en payant une amende,
qui peut être l'équivalent d'une année de salaire pour un paysan.
Cinq années de salaire.
Cinq années.
Et c'est évidemment ces enfants sont clandestins, donc c'est difficile de les recenser, mais certaines études essayent de dire ils sont plus ou moins 13 millions en Chine aujourd'hui à ne pas avoir d'existence légale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été vaccinés, ils ne peuvent pas avoir de compte en banque, ils ne peuvent même pas prendre le train, parce qu'aujourd'hui pour prendre le train en Chine il faut présenter une pièce d'identité au guichet, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas aller
dans des écoles privées
n'importe quelle école. Et
mais la loi n'a pas été assouplie avec les enfants illégaux?
Alors, il y a eu des amnisties. Donc parce que
qui proposait donc des permis de résidence.
Voilà, pendant les campagnes régulièrement, quand il y a une campagne de recensement national, il y a une proposition d'amnistie et qui permet aux enfants d'avoir un rouco, c'est-à-dire d'être enregistrés dans l'état civil. Mais quand on parle d'argent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de quartiers ou de communes qui dépendent de ces recettes, qui dépendent de cette entrée d'argent. Et donc eux, ils ne vont pas renoncer. Pour eux, l'amnistie c'est pas un bon signe. Donc, finalement, ça ne s'est pas appliqué à la jeune femme qui aujourd'hui a 20 ans et que j'ai rencontrée à Pékin. Et il y a toujours cette amende énorme qui est sur les épaules de la famille. Et donc, à 20 ans, cet enfant est toujours clandestin.
Quel peut être son avenir ?
C'est pas facile. Donc, bon, c'est vrai qu'elle peut, elle espère surtout trouver un travail, avoir une utilité sociale. Enfin, mais il y a peu d'employeurs qui veulent prendre le risque.
Il faut dire qu'il y a moins d'enfants illégaux en ville, puisque les citadins se disent oui, ça coûte cher d'avoir deux enfants, et ils n'insistent pas là-dessus. Mais c'est pas tout à fait le cas à la campagne. Les paysans veulent vraiment avoir un deuxième enfant, un garçon de préférence. Mais ceci dit, à la campagne, quand un enfant est illégal, ça pose moins de problèmes et pour le parent et pour cet enfant lui-même, en ce sens que il y a pratiquement pas de soins médicaux gratuits, il y a pas d'école, etc. C'est pas très grave. En ville, oui, c'est très grave parce que l'enfant illégal ne peut pas être scolarisé, ne peut pas avoir un compte bancaire. À la campagne, il n'y a pas de compte bancaire.
Mais alors vous, par exemple, Pierre Yang, vous êtes né avant la révolution culturelle de la fin des années 60. Donc vous êtes pas le résultat de la politique de l'enfant unique.
Les gens de ma génération n'étaient pas concernés puisque la politique de l'enfant unique a été appliquée à partir de 79, quelque chose comme ça.
Et vous êtes né donc dans les campagnes, hein, à la campagne, donc famille de combien d'enfants chez vous, Pierre?
Les gens qui sont nés dans les années 70 ont souvent 4 ou 5 frères et sœurs. C'est la moyenne nationale.
Vous restez avec nous. Je voudrais qu'on parle dans quelques instants de ces logements souterrains. C'est un phénomène assez pékinois, je crois. La fameuse tribu des rats quand le logement manque et qu'il faut gagner la ville pour travailler.
J'ai vu dans le fond de ce dernier verre qu'il était temps pour rentrer seul. Ou que demain je regretterais hier si ces mains-là me réveillaient, si ces lèvres-là me bredouillaient. Qu'il était temps de rentrer seul. Les petites heures parleraient vrai. Je croiserais d'autres marchands tilleurs. Ébloui de phare de caisse hurlante, je rentre en sifflant presque content. J'ai pas ce goût à prendre bouche. Je suis qu'un peu coupable sans doute. D'où vient ce sourire qui nous anime quand d'autres yeux s'allument? Tu flirtes avec la limite. Elle peut rougir et ses flatteries t'excitent ou te rassurent. Tu flirtes avec la limite. Faut bien qu'il bride quelque chose. Bien qu'il bride quelque chose. Faut bien qu'il bride quelque chose. Bien qu'il bride quelque chose. Faut bien qu'il bride quelque chose. Bien qu'il bride quelque chose. Faut bien qu'il bride quelque chose. Bien qu'il bride quelque chose. Faut bien qu'il brille quelque chose, nous y brille quelque chose, nous y brille quelque chose. Au coin d'une rue, j'ai retrouvé ce pote. Cette route nous saluerait. Disait nos semelles mortes aux heures si salutaires. Aux heures des solitaires, mon pote est un cylindre qui me vend des idées claires. J'achète de ces éclairs qui paraissent en lumière. Que j'ai l'impression d'y croire, je compte les réverbères. Puis repense à ces courbes, revois ma trajectoire. Je pense à ces couplets, à revivre cette histoire. Me demande une fois sur scène qui s'y intéressera. Repense à la poupée, la pute ou la maman. La mort ou la lavande, les salauds qui la chantent. Je repense à ce fragile fil magique. À cette danse de petites catins, à ces petites manies. Tu flirtes avec la limite. Il faudrait vibrer pour vivre. Faut bien qu'il bride quelque chose. Bien qu'il bride quelque chose. Faut bien qu'il bride quelque chose, bien qu'il bride quelque chose, nos yeux. Faut bien qu'il bride quelque chose, bien qu'il bride quelque chose, nos yeux.
Faut bien qu'il brille. Vince Anao chez 7 milliards de voisins. Nous parlons aujourd'hui de ses voisins et de ses voisines chinoises, mais à la marge de la société chinoise le plus largement décrit dans la presse. Cette Chine des campagnes dont on cerne mal les frontières entre les usines aux portes des villes et puis la vraie ruralité. Et puis, Jordan Pouille, vous avez enquêté sur ces Chinois qui vivent dans des logements souterrains. Alors ça, c'est plutôt un phénomène de Pékin.
Oui, parce que ce sont des anciens abris de défense anti-aérienne. Donc c'est à l'époque où Mao craignait un bombardement soviétique, qui finalement n'a jamais eu lieu. Et il a fallu après utiliser ces kilomètres de logements souterrains.
Donc sous Pékin.
Sous Pékin, à 18 mètres de profondeur. Et c'est devenu des logements pour les ouvriers migrants. Puisqu'effectivement, le logement coûte très cher à Pékin.
Donc concrètement, des kilomètres de couloirs et puis des petites pièces,
des boxes,
sans fenêtres, évidemment.
Sans fenêtres.
Sans aération.
Parfois, il fait très humide. Parfois, il y a des canalisations d'eau chaude qui traversent la chambre. Du coup, en général, le loyer est moins cher dans ces boxes. Et il fait extrêmement chaud. Mais ça permet à des ouvriers de payer un loyer, on va dire, de 70 ou 80 euros, 700, 800 yuan. Et donc, de mettre un maximum d'argent de côté, car les migrants viennent à la ville pour gagner de l'argent. Et voilà, tu comprends, Pierre?
Alors, oui, effectivement, pour comprendre l'existence de ces couloirs souterrains, notamment à Pékin, il faut revenir dans les années 60-70, où il y avait une vraie, véritable psychose de guerre. Mao a lancé une campagne, faut creuser profondément et préparer la guerre. Donc, on creusait partout dans les grandes villes, même à la campagne. On creusait. Et même dans mon livre, je parlais de ces choses souterraines, où les enfants s'amusaient drôlement bien. À Pékin, déjà dans les années 70, il y avait des hôtels pas très chers qui se trouvaient dans ces couloirs souterrains. Quand j'ai été affecté à Pékin pour enseigner le français, j'habitais pendant 2 ans dans une chambre souterraine. Et c'était pas véritablement de misère, puisque tout le monde se trouvait un petit peu dans la même situation, puisqu'il y avait pénurie de logements. Aujourd'hui, effectivement, il y a toujours des hôtels qui se trouvent là-dedans. Il y a des chambres qui sont allouées aux travailleurs migrants ou à d'autres personnes. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on peut se plaindre de conditions de vie de ces gens-là qui vivent dedans, mais je dirais c'est même une chance, puisqu'ils ont enfin trouvé quelque chose, et quelque chose de pas très cher. Sinon, la plupart de migrants, travailleurs migrants, se trouvent à des dizaines de kilomètres de Pékin, au-delà du 5e périph. Le village de mon père est aujourd'hui quasiment vide. Il y a 200 paysans de ce village qui se trouvent à Pékin, ensemble, dans un village situé au-delà du 5e périph de Pékin.
Donc avec des temps de transport énormes.
Tout à fait, en vélo.
Donc les chambres en souterrain, 18 mètres sous terre, finalement. On sent pas réellement dans vos reportages, Jordan Pouille, une exaspération de ces habitants-là qui vivent plusieurs années tout de même.
Oui, ce ne sont pas des révoltés. Hein. Je pense que c'est une période de leur vie qu'ils acceptent de vivre. Et ça leur permet... Donc, c'est souvent des jeunes. Donc, c'est des gens qui ont des rêves, qui sont en ville, un peu émerveillés par, par les possibilités. Et ils ont envie de consommer. Donc, en dépensant moins dans le foyer, dans le logement, on pourra peut-être s'offrir un karaoké.
Tout à fait. Pour un Français, un occidental en tout cas, ça peut être choquant comme... conditions de vie, mais il faut dire que les jeunes qui viennent de campagne, ils viennent essentiellement pour gagner de l'argent et ils n'envisagent pas tellement leur avenir parce qu'il leur est difficile, voire impossible, de concevoir un avenir dans les grandes villes qui ne leur appartiennent pas.
Les campagnes chinoises, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vouées à disparaître? Parce que quand on vous lit, tous les deux, on a l'impression que ça va extrêmement vite et que les terres arables... Alors, certes, la Chine a de moins en moins de terres disponibles et toujours autant de bouches à nourrir, mais comment ça va se terminer?
Il y a plusieurs points. C'est vrai qu'il y a des régions de Chine où les exploitations agricoles deviennent plus grandes, c'est-à-dire que c'est plus des paysans avec des minuscules parcelles, mais des choses qui s'industrialisent. Mais il y a aussi le développement de cultures en Afrique ou en Amérique du Sud, et le soja et des choses comme ça. Et je pense que là, ça va amener à se développer. C'est-à-dire que là où, puisqu'en Chine c'est tellement difficile de respecter ce quota de terres arables, aussi bien à cause de la pression immobilière que de la pollution, il est évident que la Chine a tout intérêt à développer ses cultures à l'étranger.
C'est un mouvement qui vous semble irrémédiable, Pierre Yang ?
Non, je pense pas que la campagne chinoise soit dévouée à la disparition. Au contraire, le gouvernement a essayé de redynamiser un petit peu la campagne. Aujourd'hui, tous les villages, même dans les régions assez reculées, sont... desservi par une route, souvent une route bétonnée ou goudronnée. Ça a été le cas du village de mon père. Il y a une route bien bétonnée qui arrive jusqu'au village. Et avant, il fallait marcher pendant des heures, des heures. Dans mon livre, je parlais de ma grand-mère paternelle, qui prenait toute une journée entière pour faire 20 kilomètres à pied, avec les pieds bandés. Aujourd'hui, tous les villages sont bien desservis, c'est vrai. Et le gouvernement essaie de redynamiser la campagne, la vie rurale, puisque c'est vrai que la terre n'est plus rentable. Mmh. Les paysans n'ont plus aucun intérêt à travailler sur la terre, puisqu'ils perdent de l'argent en fin d'année. Donc il faut concevoir, organiser la culture, l'agriculture autrement. Et je crois que c'est l'un des défis de la Chine, à savoir comment rendre l'agriculture rentable.
Et puis avec notamment l'instauration timide d'un droit à la propriété dans les campagnes, hein, Jordan Pouille. Mais là, c'est un autre sujet.
Oui, c'est vraiment une question difficile. Oui.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Vous êtes Jordan Pouille, vous êtes un jeune journaliste, enfin, déjà bien accompli. Hein. Vous avez été d'ailleurs finaliste au prix Albert Londres 2014. Mais vous êtes un trentenaire. Pierre Yang, vous êtes écrivain, vous êtes un quinca, un cinquantenaire. Est-ce qu'il y a, vous pensez, aujourd'hui, une approche générationnelle de la Chine, la façon dont vous voyez les choses? Alors, bien évidemment, Pierre Yang, vous êtes chinois, mais vous avez une façon différente de sentir la Chine d'aujourd'hui?
Je pense que c'est lié à la sensibilité. Moi, je suis très attaché aux rencontres, aux personnes, et j'essaie de me faire une analyse au travers de ces rencontres, au travers du vécu. Et il peut y avoir d'autres approches.
Moi, je crois, je me permets de dire que j'ai eu deux vies chinoises. Je redécouvre mon pays avec beaucoup de surprises, puisque c'est un pays que je connais, j'ai du mal à connaître.
C'est-à-dire, pourquoi ?
Aujourd'hui, parce que ça change très vite, et du fait de l'éloignement géographique, j'ai du mal à suivre cette évolution.
Ouais. Et vous, Jordan Pouille, il y avait une rencontre qui vous a permis de vous dire... peut-être là, ça y est, je comprends un peu mieux cet immense pays.
Ma femme est chinoise, donc ça aide.
Oui, elle vous a suivi en plus dans tous vos périples, mais en dehors d'elle.
Je pense le pêcheur de cadavres, en fait, celui que vous retrouvez au premier chapitre, car c'est une personne qui, pour moi, Et face à tellement de défis, donc le problème de la politique de l'enfant unique, le problème des usines, de la pollution, le problème des ouvriers migrants, enfin il y a plein de questions sous-jacentes. Et à travers son histoire toute simple de bonhomme qui essaie de survivre, il se trouve plongé au cœur de beaucoup de problématiques qui m'ont aidé à décrypter un peu mieux la Chine.
C'est un indocile, lui aussi.
Ah oui, c'est un indocile. Vraiment un indocile dans le sens où il profite des interprétations de la loi, il profite du système, il profite du fait que la police n'a pas trop envie de s'embêter avec ce qui se passe sur le fleuve jaune pour faire son business et pour vivre. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est cet instinct de survie qu'on retrouve chez les Chinois. Ouais. Cette capacité
dans les interstices,
à s'adapter, à s'engouffrer dans une brèche, à voir une fenêtre de tir et s'y frais et tirer parti.
Ou à vivre dans les souterrains. Merci à tous les deux. Jordan Pouille, vous publiez Le Tigre et le Moucheron sur les traces de Chinoises indociles aux éditions Les Arènes. Faut absolument vous lire. Et Pierre Yang, c'est votre premier roman déjà bien accompli, Démon Nocturne, aux éditions L'Harmattan, où vous revenez un peu sur votre enfance dans la campagne chinoise. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac, et pour toutes vos réactions. Bien sûr, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et réécouter toutes nos émissions en libre service, en podcast, sur le site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, nous serons de retour en direct pour une nouvelle émission. À demain, les voisins.